à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, Mahaba, nous nous étions quittés sur la cinquième raison qui nous pousse à adorer Jésus au Saint-Sacrement une heure par semaine. Voyons la sixième raison d'adorer Jésus une heure par semaine dans l'hostie. C'est l'amour et l'engagement. Trop de personnes disent qu'elles ne veulent pas être liées à une heure fixe, qu'elles ne veulent pas s'engager, mais veulent seulement adorer quand elles le désirent. Ceci est trompeur. L'amour nous pousse à nous engager. Sans cela, cet amour simplement reste sur le plan sentimental et affectif. La liberté s'accomplit pleinement par l'engagement dans l'amour. Voilà pourquoi deux personnes s'engagent dans le mariage. On s'aime, donc on s'engage pour vivre toujours ensemble. De même, dans l'adoration, si on reconnaît en l'Eucharistie notre Sauveur avec son cœur battant d'amour infini pour nous, pourquoi ne pas choisir de donner une heure de choix chaque semaine pour être avec lui, lui témoigner notre amour reconnaissant. Il se rend disponible à nous jour et nuit au Saint-Sacrement. Saurons-nous répondre à son invitation ? Je le cite à nouveau. « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» La septième raison d'adorer Jésus au Saint-Sacrement est la décision de devenir fidèle. Donner fidèlement une heure à Jésus dans la chapelle d'adoration nous aide à nous fidéliser dans la prière. Nous devenons veilleurs avec Jésus, gardien du Saint-Sacrement. Avec l'adoration eucharistique perpétuelle, nous venons prier après quelqu'un et nous laissons notre place à quelqu'un d'autre. Chacun est un maillon essentiel pour que la chaîne de prière soit continue et que Jésus soit aimé. Amour pour amour. Monseigneur Josefino, de l'archidiocèse de Manille, aux Philippines, dit, je le cite, « L'adoration eucharistique est le plan de paix de Notre-Dame. Je suis convaincu que c'est par cette adoration que la paix viendra sur notre pays et sur le monde. Quand nous ferons sur la terre ce qui est fait au ciel, c'est-à-dire adorer Dieu perpétuellement, alors nous verrons la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Le seul nom, la seule puissance, le seul amour qui nous apporteront la paix éternelle sur la terre. Ce sont le nom, la puissance et l'amour de Jésus au Saint-Sacrement. Dans chaque diocèse, les fruits de l'adoration sont importants. Les vocations croissent et fleurissent. Je cite Mère Teresa de Calcutta. Ce n'était pas avant 1973, année où nous avons commencé leur sainte quotidienne, que notre communauté s'est mise à croître et à fleurir. L'évêque de Cloyne, en Irlande, Monseigneur John Maggie, raconte que les vocations sacerdotales dans son diocèse ont triplé depuis qu'il a instauré l'adoration eucharistique perpétuelle. En 1990, 16 séminaristes, en 1993, 45. Le deuxième fruit de l'adoration, Les conversions. Mère Teresa dit, je la cite, « Je supplie la Vierge Marie de toucher le cœur de tous les curés de paroisse pour qu'ils établissent l'adoration eucharistique perpétuelle dans leur paroisse et que cela se répande dans le monde entier. » Oui, l'Eucharistie est la grâce de notre troisième millénaire. Innombrables sont les hommes qui font le sacrifice de leur vie en allant à la guerre. Si peu sont prêts à faire même un petit effort aujourd'hui pour apporter la paix. Le mal semble l'emporter sur le monde, car ceux qui sont contre Dieu sont plus actifs et fidèles que ceux qui sont pour Dieu. Une alerte rouge clignote sur le Liban, terre où le Christ a bu et mangé. Qui réagira contre l'indifférence générale et deviendra un soldat pour le Christ, un guerrier de prière pour la paix? Qui deviendra un homme de Dieu ou une femme de Dieu en se munissant des armes spirituelles qui sont la prière et le renoncement à soi-même? Je suis émerveillée devant de nombreuses femmes libanaises qui viennent en notre chapelle à Bana consoler Jésus et l'adorer. Mais j'appelle les hommes libanais qui sont si attachants, vraiment, à rejoindre les femmes devant le Saint-Sacrement. Rappelez-vous Jésus qui a guéri 10 lépreux et un seul est revenu pour le remercier d'avoir purifié son corps. Jésus demanda alors, je le cite, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils ? » Jésus, à chaque messe, accomplit un miracle bien plus grand pour chacun de nous. Le don de la Sainte Eucharistie qui nous rend immortels dans la vie éternelle. Chaque communion rend notre âme plus glorieuse et plus belle pour le ciel. Même si Jésus nous demande de lui rendre grâce pour ce grand don, en venant chaque semaine lui rendre visite au Saint-Sacrement, trop peu encore répondent à cet appel. Votre effort compensera l'ingratitude des 9 autres, ceux qui ne pensent jamais à rendre visite à notre Jésus au Saint-Sacrement. Et regardez le visage et la beauté des hommes ou des femmes âgés, avancés en âge, qui ont vécu de l'Eucharistie. Ils sont si beaux et si transparents. Oui, la vie en Jésus est la pleine santé. Vous, jeunes gens et jeunes filles, jeunes hommes en vacances, vous qui pensez à votre corps sur la plage, laissez une heure pour Jésus, pour aller l'adorer dans le tabernacle, et votre corps de chair deviendra beau éternellement. Jeunes gens du Liban, réveillez-vous, quittez la plage et allez dans les églises rejoindre le Christ qui refera votre corps dans sa beauté originelle. Et si l'on vénère les saints, nos frères, aînés dans la foi, il faut décider de vivre comme les saints. Et chacun de ces saints avait cet amour de l'hostie qu'ils adoraient. Et Jésus a fait de chacun d'eux une hostie vivante et des bienheureux. Notre culte des saints doit être sérieux. Les appeler au secours pour des guérisons, oui, mais les imiter en leur vie terrestre et ce que les saints attendent de chacun de nous. Soyez comme l'apôtre Saint Jean. Seul Jean eut le courage de suivre Jésus tout au long du chemin du calvaire. Grâce à son amour fou de Jésus, il est connu comme l'apôtre que Jésus aimait, car Jean s'est sacrifié pour Jésus. L'amour livre sa vie sans retour, gratuitement. Jean entendit une voix criant du ciel que Jésus, dans le Saint-Sacrement, est digne d'adoration incessante de la part des hommes pour tout ce qu'il a fait pour le salut de chacun de nous. Je le cite, « Digne l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 5, 12. Jean vit la foi des hommes en action. Il se rendait devant Jésus dans le Saint-Sacrement. L'agneau sur le trône, jour et nuit, sans cesse. L'amour infini provenant de Jésus dans le Saint-Sacrement jaillissait, un fleuve d'eau vive qui guérissait les nations. Voici le pouvoir, la valeur et l'importance, mes chers amis libanais, de votre sacrifice devant le Saint-Sacrement. Soyez certains, chers auditeurs, que votre sacrifice guérira la nation libanaise et fera du Liban le Liban souverain dont tous les pauvres politiciens parlent. Mais chaque politicien doit se mettre à genoux devant l'hostie. C'est là le lieu même du travail véritable pour ce Liban souverain. C'est ce que Jésus exprimait lorsqu'il dit, je le cite, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. Et si vous croyez en mon amour dans le Saint-Sacrement, si vous croyez vraiment en mon amour, alors sous vos yeux, vous verrez les miracles de mon amour. » Oui, mes amis, ouvrons les yeux et regardons autour de nous tous ces femmes, tous ces hommes consacrés à Jésus et essayons nous-mêmes de rentrer dans cette folie du Saint-Amour. Seul, plénitude de l'homme assoiffé de justice et assoiffé d'aimer. Jésus attend de réunir tous les hommes dans son cœur eucharistique. Et pourtant, l'humanité est déchirée par la division et la guerre. L'heure est venue, votre heure à vous, mes amis libanais, devant le Saint-Sacrement. Cette heure aidera Jésus à accomplir sa volonté lors de la dernière scène. L'union de tous les politiciens et de tous nos frères musulmans avec nous qui gémissent dans l'attente de crier avec nous « Abba, Père !» Que tous soient un. Oui, mes amis libanais, prions avec les saints.
Fou de Dieu,
Oui, Jésus-Christ veut accomplir notre destinée et en faire un chemin de sainteté royale sur les traces de notre bienheureux saint Charbel ou d'Abouna Yacoub. Qui nous connaît comme le Seigneur? La victoire dans nos vies est basée sur une confiance totale en celui qui est venu détruire les œuvres du mal, mais aussi guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler les affligés, libérer les captifs et surtout mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés et sauvés. Sauvés de l'enfer, oui. Mais dans le mot salut, il y a aussi guérison et délivrance. Chaque jour augmente le nombre de personnes blessées ou meurtries intérieurement. Ce sont des malades sur le plan émotionnel ou spirituel. Beaucoup de gens souffrent d'amertume, de ressentiment, de complexes de dépression, de liens, de crainte et d'angoisse. Le désir, l'intention de Dieu envers l'homme, c'est de le rétablir dans une pleine santé émotionnelle et spirituelle. Je cite Isaïe 61:1-3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Lorsque Jésus entre dans une vie, son dessein est d'œuvrer de l'intérieur, par son esprit et sa parole, dans le but de l'amener à une guérison entière, à l'unité de la personne, de l'être profond si morcelé. Par ignorance ou manque d'enseignement, beaucoup de chrétiens retardent en eux l'œuvre du Seigneur. Ils vivent pendant des années avec des dépressions, des blessures intérieures, des craintes psychiques, etc. Il y a une puissance de guérison dans la personne et la parole de Jésus-Christ que tout enfant de Dieu, le Père, doit expérimenter. Aucun chrétien ne doit vivre dans la défaite ou la dépression chronique. Notre société est victime de conflits psychiques, émotionnels et spirituels. Les gens vivent dans l'anxiété, dans la crainte, dans l'angoisse. Certaines personnes tombent en dépression grave. Le désespoir s'empare de beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se sortir de leurs troubles. Les tentatives de suicide en découlent tout aussi naturellement et malheureusement se transforment en réussite. Mais la mort physique n'est pas une fin pour celui qui est loin de Dieu. C'est le début de l'éternité et le début de mise au point terriblement douloureuse. Des milliers se tournent vers la psychiatrie ou la psychanalyse, à la recherche de soulagement à leurs souffrances mentales et spirituelles. Beaucoup, malheureusement, se tournent aussi vers les sciences occultes, pensant que la méditation transcendantale ou des pratiques comme le yoga vont les aider. D'autres encore vont voir des guérisseurs, ou encore, dernièrement, des tireurs de cartes ou des chairs. D'autres feront des sciences d'hypnose, etc. Ce que tous recherchent, c'est la santé, le bonheur et la paix intérieure. Quelques-uns, certes, y trouveront un certain soulagement, mais il sera éphémère et transitoire. Pourquoi ? Parce que l'ennemi de Dieu, Satan, prêtre suprême de l'occultisme, ne donne rien sans demander en échange. Au final, les maux et les troubles divers s'aggravent, sérieusement, au contact de toutes ces pratiques que Dieu lui-même rejette et déconseille. Nous vivons au milieu d'une civilisation créatrice de névroses. Vitesse des villes, bruit, fumée, publicité provocante, musique agressive, etc. L'épuisement physique produit par la vie, manque de logement, de moyens d'argent, de moyens de transport bondés, circulation infernale et indisciplinée, etc. Épuisement affectif par suite de propositions souvent inaccessibles, statut social, richesse, provocation érotique exagérée ou désordonnée. Épuisement intellectuel dû aux soucis, aux conflits, monde matérialiste incapable de satisfaire le cœur de l'homme, régime de compétition dans tous les domaines, augmentation de l'agressivité, vie de famille discréditée et très perturbée, etc. L'éloignement du Seigneur ou la tricherie avec le Seigneur et l'Église, la transgression des lois du Seigneur sont les causes fondamentales de tous ces maux de l'humanité. Je cite Jérémie 2, 13 et 19. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. La condition indispensable pour recevoir une guérison intérieure est de revenir à Dieu par le seul et unique chemin, Jésus-Christ. Ce principe fondamental pour la libération de tous les troubles et conflits psychiques et émotionnels est valable pour tout homme et toute femme, quelle que soit sa condition, sa religion ou son engagement. Qui nous connaît mieux que notre Père des cieux? Et si Dieu rétablit la santé de notre être profond intérieur et nous unifie en lui, c'est pour aimer mieux les autres. C'est pour construire autour de nous la paix et la cité. C'est pour devenir capable, dans une relation vraie, sans masque, une relation qui construit, de construire le monde. Le défi qui nous est lancé en tant que chrétiens, ce n'est pas de montrer la supériorité de nos dogmes par rapport aux autres croyances, une preuve intellectuelle en quelque sorte, mais une attitude concrète qui donne à voir notre foi dans la relation à l'autre sur notre route de vie. Une preuve pratique. Saint Augustin déclarait, je le cite, « Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. » C'est la charité mise en pratique qui lève le voile de l'identité de notre Dieu. La foi chrétienne est une façon spéciale et unique de nouer des relations. Nous découvrons Jésus de Nazareth comme un homme de relations. Il accorde d'abord une importance à la relation à celui qu'il ose appeler son Père. Il se retire dans la solitude pour le prier, l'adorer, pour s'imprégner de sa volonté, surtout quand celle-ci semble à contre-courant du désir humain, notamment à Gethsémani. Par ses paraboles et ses comportements, Jésus incarne le visage de Dieu, tendresse et de pardon. Il est le père du fils prodigue, il est le berger qui court après la brebis perdue. Il n'a de cesse de faire alliance avec toute l'humanité. Ce qui fait le bonheur de ce Dieu-là, ce ne sont pas les champions de performance ascétique, mais ceux qui font place à l'autre dans la pauvreté et la miséricorde. Tous les courants religieux des premiers siècles se définissent par séparation, par exclusion des autres. Jésus est révolutionnaire. Il est le seul à prêcher, en le vivant jusqu'à la croix, l'intégration de tous les hommes au nom d'un Dieu Père, qui n'est pas celui d'un peuple, mais de tous les peuples. Il y a en Jésus une dimension d'excès, de folie, de gratuité, de générosité, qui sape notre désir d'épargne et de calcul trop humain. Il nous faut perdre pour trouver à méditer. Sainte semaine, et n'oubliez pas de transformer vos vies en imitant les saints que vous aimez et vénérez. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.